nous vous proposons de découvrir Viveiro et de revivre les histoires de son passé à travers un conte fantastique mettant en scène des personnages historiques, anonymes ou importants de la vie politique, sociale ou artistique de Viveiro. Vous allez parcourir ses rues, places et ruelles, guidé par un mystérieux promeneur nocturne dont vous découvrirez l'identité à la fin de la visite.
Avant de commencer cette visite guidée, il est important d'écouter les instructions suivantes. Une fois connecté, veillez à ne pas interrompre le son. À la fin du parcours, il vous suffira d'éteindre le dispositif. Un conseil, pour éviter toute distraction et ne pas perdre le fil de l'histoire, éteignez votre téléphone ou activez le mode silencieux. Cet audioguide vous indiquera le chemin que vous devez emprunter. La promenade dure 45 minutes à pas lents. Elle a pour point de départ la Praça Mayor et s'achève à Fonte da Areia, au pied du couvent San Francisco.
Je suis né à deux pas d'ici, dans l'une de ces ruelles escarpées qui serpentent jusqu'à la place. À l'époque, le quartier historique était grouillant de vie et de gens, à tel point que lorsque j'étais enfant, il y avait à Viveiro plusieurs terrains de jeu qui accueillaient les gamins du coin. Le mien se trouvait ici, à Ocantón. En plus, il comptait le Campinho das Tocas pour jouer au Che, un jeu traditionnel. Les autres zones portaient le nom de Pescaderia, Santa Maria, Zapateria et Feira, ou route des voitures, en dehors de la muraille. Aujourd'hui, il ne reste que très peu d'habitants dans le quartier. Lorsque je venais m'y promener la nuit, il m'arrivait de faire plusieurs allers-retours dans le coin et de ne croiser personne. Mais ça, c'était avant. Depuis quelque temps, tout a changé. D'ailleurs, je ne peux pas vraiment expliquer ce qui s'est passé, pourquoi c'est tombé sur moi. Je ne sais même pas si d'autres habitants de la ville possèdent ce don. Le fait est que je vois et j'écoute des gens qui sont morts depuis longtemps, des personnages historiques ou des inconnus qui en d'autres temps ont habité ou fréquenté ces rues. Je bavarde même avec eux. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Pour vous convaincre, suivez-moi. Je vous propose de découvrir la ville en suivant les pas de certaines personnalités qui ont vécu. Tout a commencé ici, sur cette Praça Mayor. À mon époque, elle portait le nom de Praça da Constitución et constituait le cœur de la bourgade. Situez-vous au centre pour mieux le contempler. Maintenant, jetez un coup d'œil autour de vous. Jusqu'au 19e siècle, cette place était tout à fait différente. Par exemple, en bas, à l'angle inférieur à gauche, on pouvait voir l'église paroissiale Santiago. En 1840, la mairie profite des lois de désamortissement adoptées par le gouvernement présidé à l'époque par Mendizábal et décide, par arrêté municipal, la totale démolition du temple afin d'agrandir l'espace urbain. Des années plus tard, c'est au tour de la prison et de la maison du corregidor d'être détruites. L'augmentation du périmètre a permis l'ouverture de deux coins, le canton d'Arriba ou das Tocas et le canton d'Abaixo ou canton de Santiago, un souvenir de l'église qui s'y dressait. En 1891 a été inaugurée la statue de l'homme politique, journaliste et poète romantique Nicomedes Pastor Díaz, celle qui se trouve à l'angle inférieur droit. La voyez-vous? Il y a quelques années, elle était située au centre de la place, entourée d'une grille en fer. On décida de la déplacer pour laisser plus d'espace au marché, qui se tient ici depuis de temps immémoriaux. Mais permettez-moi de reprendre le fil de mon histoire. Cette nuit-là, mon insomnie m'a conduit à prolonger ma promenade jusqu'aux premières lueurs du jour. Je venais de visiter la maison où je suis né, qui se trouve dans la ruelle qui descend là-bas à droite, qui s'appelait alors Cazuela et maintenant Constanza de Castro. Peut-être en l'honneur de la fille rebelle du maréchal Pardo de Cela, qui fut maire de Viveiro ou de celle qu'on appelait la dévote du peuple, qui fut enterrée dans le couvent de San Francisco. Quoi qu'il en soit, à Viveiro, les noms des rues n'ont pas arrêté de changer depuis l'époque de la régence d'Espartero, en 1841. Mais les gens continuent d'utiliser les anciens noms ou inventent de nouveaux. Le fait est que je suis entré dans la place par la Rua Cayuela, ou du Rey, ou Pablo Iglesias. Elle a eu tous ces noms. Et lorsque je suis passé à côté de la statue de Pastor Díaz, j'ai entendu quelqu'un s'adresser à moi. Je regardais autour de moi, mais dans la place, il n'y avait personne. La voix a résonné de nouveau.
Il se fait tard. Il n'y a aucun passant, je m'ennuie.
On aurait dit que la personne qui parlait était au-dessus de moi. J'ai levé la tête et j'ai alors vu l'énorme figure en fer de Nicomedes Pastor Díaz se diriger vers moi.
Je vais m'asseoir un instant, si vous me le permettez. Si vous saviez combien il est pénible d'être constamment debout.
Je n'y croyais pas mes yeux. J'ai fermé mes paupières quelques secondes, convaincu que le sommeil et la fatigue me jouaient des tours. Mais lorsque j'ai rouvert les yeux, Pastor Díaz était toujours là, assis sur le piédestal en pierre, les jambes ballantes. Il me fixait du regard. J'étais bien obligé de lui parler. « C'est tout à fait compréhensible. Ça fait des années que vous êtes debout là-haut. »«
Oh, et dans la même position. » Vous ne pouvez pas vous faire une idée.
Le poète répondit alors qu'il poussait la plume qu'il avait dans sa main droite.
Avant, au moins, j'avais vu sur la mer. Je pouvais voir les brouillards entrer du côté de l'Iquiera, où les galères se formaient dans les Cantoriques.
J'ai voulu y répondre, mais je n'ai pas trouvé les mots et le poète a continué à parler sans me lâcher du regard.
La nuit, je passais mon temps à compter les secondes écoulées avant de revoir la lumière du phare d'Estaca de Varese. Pendant la journée, en revanche, mon activité dans les mines de Silva Rosa continuait. Je comptais alors les tonnes de fer extraites par les mouvements des wagonnettes. Ceux-ci transportaient les métals par un câble suspendu jusqu'à une structure métallique, le cargadoiro da Insua.
À un moment donné, j'ai voulu intervenir, mais l'homme à la voix ferme ne s'arrêtait pas, pas même pour reprendre son souffle.
J'étais également un témoin privilégié de la procession du Vendredi Saint, appelée Santo Encontro. Et maintenant, voyez-vous, je suis condamné à regarder du coin de l'œil le nouvel édifice de la mairie et les interminables bois d'eucalyptus qui entourent la ville.
J'ai enfin pu articuler quelques mots pour tenter de donner une vision plus optimiste de la situation. Ce doit être tout un honneur pour vous que votre ville natale vous rende hommage avec cette imposante statue afin que les futures générations se souviennent de vous. Malheureusement, ça n'a fait que remuer le couteau dans la plaie.
Ils ont voulu compenser après ma mort ce qu'ils n'ont pas fait de mon vivant.
N'exagérez pas, vous avez quand même été une personnalité importante et très reconnue de votre vivant pour le mandat que vous avez exercé au sein du gouvernement, mais aussi pour l'ensemble de votre œuvre.
Dans les élections par district, je pensais que dans la ville où j'étais né, la ville où il ne devait y avoir aucune jalousie, car je n'ai possédé aucune fortune et aucune haine, car je n'ai fait aucun mal à personne, eh bien, je pensais que dans cette ville, je n'aurais aucun adversaire. J'espérais que cette ville me choisirait pour représentant. Mais elle a préféré voter en faveur d'Antonio Coira. Alors, j'ai souhaité bon courage à mes citoyens. Je me suis éloigné de la terre de mes origines pour toujours, avec tristesse.
Il y a de ça plus de 100 ans. Après toutes ces années, cette douleur vous ronge encore?
Ils m'ont placé là, une plume à la main. Mais personne ne m'entend. Ma voix s'éteint. De mon existence obscure, solitaire, il ne restera ni la voix. Je n'appellerai personne. Mon nocturne ensemble ne surprendra personne au monde.
Rassurez-vous, je viens me promener tous les soirs. Je promets de venir vous écouter à l'heure où la ville dort. Les premières lueurs du jour annonçaient la fin de l'année. Et j'ai laissé là Nicomedes, récitant ses poèmes à une ville qui dormait dans un silence absolu. Depuis, je suis allé le voir presque toutes les nuits, et rien ne venait interrompre nos conversations qui portaient sur la politique, l'histoire ou la littérature. une nuit pourtant, en arrivant à l'ancienne mairie, j'ai dû m'arrêter. La mairie, c'est cet édifice en pierre qui se trouve à droite. Sa façade est ornée de deux blasons et d'un cadran solaire couronné par un lion passant. Cette nuit-là, la place était envahie par une foule qui criait avec fureur. Soudain, tout le monde s'est tu et, penché au balcon de la mairie, un homme commença à poser des questions d'une voix puissante.
A ver, ¿qué queréis?
Depuis la place, la foule indignée a crié de concert. L'homme continuait à interroger la foule depuis le balcon. Je me suis alors rendu compte que j'étais en 1812. Au beau milieu des événements qui débouchèrent sur l'assaut de la mairie et l'expulsion des autorités locales. Une multitude de paysans, avec Jean Fernandez à leur tête, il habitait le lieu d'Ibiza, du côté de Saint-Pantoléon de Cabanas, occupa la ville et réclama et proclama l'abolition des impôts qui les condamnaient à des conditions de vie très dures. Je les regardais et voyais dans leurs yeux une espérance de liberté. Mais je savais bien qu'après avoir bu et mangé tout son sou, la troupe ferait son apparition, que Chan de Itha irait en prison, qu'on allait leur confisquer leurs biens et que les soldats stationneraient là quelque temps. Mon histoire ne s'arrête pas là. Une autre nuit, alors que je sillonnais le quartier de Pescaderia, j'entendis un grand tumulte provenant de la place. Je m'y suis précipité en empruntant la rue à Margarita Pardo de Fella. Et une fois là-bas, j'ai demandé ce qui se passait à une femme qui prenait la fuite en courant.
La proclamation des candidats électoraux qui étaient en cours dans la mairie a été suspendue.
Excusez-moi, mais ce sont des candidats de quelle année?
Mes enfants, de cette année. Ne posez pas des questions et courez.
La femme m'a remis un journal et a pris les jambes à son cou. C'était un exemplaire de La Voix de Viveiro, porte-parole des libéraux, daté du mois de novembre 1911. Soudain, des jets de pierre sont tombés tout près de moi et je dus trouver refuge au pas de la porte de la pharmacie de Varela, en bas à droite de la place, vue d'en haut. Deux groupes d'hommes s'affrontaient à coups de pierre devant la mairie. C'étaient deux factions rivales. Les conservateurs qui occupaient la partie haute et les libéraux qui étaient éparpillés en bas. C'était un jour de marché et les vendeurs faisaient tout leur possible pour protéger leurs étals. Lorsque les premiers coups de feu ont retenti, tout le monde a décampé et couru vers les différentes sorties de la place. Moi, je suis resté cloué sur la place, tétanisé par la peur. Plusieurs personnes autour de moi sont tombées. L'une d'entre elles était une femme qui vendait des fromages à quelques mètres d'ici. Je me suis approché, elle était blessée à la poitrine et saignait beaucoup. J'ai fait pression sur sa plaie avec le journal que j'avais sur moi pour arrêter l'hémorragie. Elle m'a regardé, a murmuré quelques mots à voix très basse et m'a pris la main avec force pour y déposer avant de mourir quelques pièces de monnaie. Toute la fortune qu'elle possédait. Elle voulait sans doute que je la remette à sa famille. Les événements de ce 5 novembre 1911 ont fait plusieurs blessés par balles et ont provoqué la disparition des organes de propagande locaux des libéraux, La Voz de Viveiro et des conservateurs El Vivariense. Mais n'allez pas croire que mes promenades nocturnes dans Viveiro sont toujours aussi mouvementées. En fait, la plupart des fois, elles ressemblent plutôt à des paisibles voyages dans le temps. Je vais vous montrer un coin que j'aime tout particulièrement. C'est tout près d'ici, sur la rue Maria Sarmiento, qui part là-bas en face, à l'angle inférieur gauche de la place, et conduit à la Porta Mayor, la plus grande porte de l'ancienne muraille qui est parvenue jusqu'à nous. Nous allons nous y rendre, descendre et chercher la rue Maria Sarmiento. La Porta Mayor est également connue sous le nom de Porta do Castelo, ou Porte du Château, ou Porte Charles Quint, car elle a été construite en son honneur en 1548. Une fois arrivée, allez jusqu'au bout de la rue. Dans la partie inférieure de la porte, vous verrez une image de Saint Roch, patron de la ville, qui ornait la Casa du Corregidor jusqu'au XIXe siècle. Ne franchissez pas la porte et posez votre regard sur la maison qui est adossée du côté droit. Elle abritait jadis le Collège Insigne, un collège où étudia notamment Pastor Díaz. Comme l'enseignement était gratuit, de nombreux enfants issus de familles démunies ont pu y accéder à une formation. Ce fut l'un des premiers collèges laïcs de son époque et il a été fondé à la fin du XVIe siècle, suivant les dernières volontés de Maria Sarmiento Rivadeneira, inscrite sur son testament le 11 juillet 1563. Lorsque je regarde cette maison, j'entends sa voix me parler.
Jordan, que dans ces maisons dont j'ai fait l'acquisition, qui ont appartenu à Pedro Pardo de Fella, de céder dans cette ville, qui à côté du pont, soit fait un collège de grammaire et qu'il y était un précepteur président les dix collèges, pour enseigner la grammaire à tous ceux qui veulent l'écouter. Et les dix précepteurs sera tenu de lire en cours ses leçons comme il est coutume de le faire dans d'autres collèges privés sous contrat. Sans rien avoir à donner en échange, est un autre précepteur des cas de conscience qui lit Laga et Etana.
Le collège ferma ses portes au milieu du XIXe siècle en raison des effets des désamortissements qui l'ont laissé sans patron. Il y a eu quelques tentatives de réouverture, mais il ferma définitivement au début du XXe siècle. Maintenant, nous devons revenir sur nos pas et sortir de cette rue par où nous sommes entrés. Allons-y. Une fois arrivés à l'angle où il y a une pharmacie, empruntez la ruelle qui va vers la droite. Le toit de la pharmacie est orné d'une croix qui rappelle qu'elle abritait autrefois le presbytère de Santiago. La rue qu'il faut emprunter est la rue Pastor Díaz. Continuez votre marche. Un peu plus loin, au numéro 12, se trouvait la demeure du banquier et leader libéral à l'époque de la restauration des Bourbons de la fin du XIXe siècle, Benigno López Castro. Sa maison fut le centre de la vie sociale et politique de Viveiro jusqu'au premier tiers du XXe siècle. Nous allons y faire une halte quelques minutes pour observer sa façade. Car de l'édifice d'origine, de style Renaissance, il ne reste que la façade. Cette maison est surnommée la Maison aux Lions, en raison des lions qui flanquent le blason qui couronne la porte. Vous êtes arrivé ? Eh bien, portez votre regard sur les lions. On dit qu'ils regardent les passants en souriant d'un air malicieux parce qu'ils savent tout ce qui se passait à l'intérieur de ces quatre murs. López Castro y organisa des fêtes à n'en plus finir. Il a accueilli et hébergé des ministres, des députés et des nonces du pape. Ici ont été nommés et destitués pendant des décennies des députés aux assemblées législatives pour le district de Viveiro. L'imprimerie de l'Heraldo de Viveiro s'est installée au rez-de-chaussée en 1912. Cet hebdomadaire, aujourd'hui centenaire, a pris le relais des gazettes d'autrefois. Et c'est ici que López Castro met fin à ses jours. En 1928, ces entreprises font faillite et ils se donnent la mort d'une balle dans la tempe. L'écho de ce coup de feu retentissait encore dans mes oreilles lorsqu'une nuit, en passant devant la Casa dos Leones, j'ai assisté à une scène inouïe. Imaginez que vous vous promenez avec moi. Nous sommes en 1930. Ce sont les fêtes du Carmen. Et devant nos yeux va éclater la rivalité existante entre deux bandes de musique locale. D'une part, il y a le groupe des explorateurs, germe de l'actuel groupe de musique municipale Orlando de Viveiro. Et d'autre part, il y a Os Torinos, une fanfare également connue sous le nom de la famille sacrée, car elle était composée majoritairement de membres de la famille Amor. Ce jour-là, les deux groupes devaient faire un défilé, mais aucun d'eux ne voulait être le premier. Finalement, Os Torinos ont dû ouvrir le bal. On entendait la musique s'approcher et nous avons vu la fanfare avancer vers nous depuis la place. Mais soudain, quand ils passèrent devant la Casa dos Leones, tous les musiciens s'engouffrèrent dans la ruelle qui mène vers la petite Plaza de Herba où ils se cachèrent et attendirent en silence que défilent aux exploradores. À présent, continuez à marcher sur la Rua de Abaixo et laissez derrière vous la Casa dos Leones à votre droite. Un peu plus loin, on voyait avancer aux exploradores en parfaite formation sur la Rua de Abaixo. Alors, Os Torinos sortent de leur cachette, se placent derrière eux et au signal, ils commencent à jouer tous les instruments en même temps et provoquent une effroyable cacophonie. Surpris par l'embuscade, Os Exploradores perdent le pas et arrêtent de jouer. Lorsqu'ils reconnaissent les membres de la famille Amor, ils se rendent compte qu'il s'agit d'une provocation et courent après eux en n'hésitant pas à leur lancer les instruments de musique. Il est grand temps de s'éloigner de cette bagarre musicale inédite et de trouver refuge dans une petite place située un peu à gauche au milieu de laquelle se dresse une fontaine. C'est justement la place de la Fontaine Nouvelle. La voyez-vous ? Nous allons y faire une petite pause pour reprendre des forces. Ici, sur cette place, j'ai bavardé avec la personne la plus insolite et surprenante de toutes celles que j'ai rencontrées au cours de mes promenades nocturnes dans Viveiro depuis que j'ai découvert ce don de pouvoir voir des gens de temps passé et parler avec eux. C'était un vendeur de bibles anglais appelé George Borrow. En provenance de Ferrol, il visita notre bourgade en automne 1827. J'ai fait sa connaissance juste là, devant la fontaine. Il avait ses valises avec lui. Je l'ai salué et il m'a raconté qu'il était arrivé à Viveiro la veille, en pleine nuit, et qu'il avait trouvé refuge dans une auberge qui bordait cette place.
Lorsque nous sommes arrivés à Viveiro, toute la ville dormait. Les chiens n'ont même pas aboyé. Après avoir frappé à la porte un long moment, elle s'est ouverte. L'auberge était grande, mais dans un piteux état.
À l'époque, il n'y avait pas les commodités d'aujourd'hui.
Une ruine, je vous dis. Une fois les hommes et les chevaux installés, il a commencé à tomber des torrents de pluie accompagnés d'éclairs et de tonnerres. Antonio et moi étions morts de fatigue et nous nous sommes couchés tant bien que mal dans des espèces de lits mal agencés. La chambre était délabrée et détrempée à cause des gouttières qu'il y avait dans le vieux toit.
Dans ces conditions, je suppose que vous n'avez pas beaucoup dormi.
On a dormi très mal et très peu. Heureusement, les jours s'élevaient sans nuages et Antonio a préparé un copieux petit déjeuner à base de poules à l'étouffée.
Et vous n'avez pas eu le temps de visiter la ville?
On a fait un petit tour, mais on ne s'y est pas attardé. Donc, vers 10h du matin, on a repris la route vers les Asturies.
Il était pressé, Donc, nous nous sommes dit au revoir sans trop traîner et je l'ai perdu de vue au bout de la Rua de Abaixo, accompagné de son inséparable Antonio et de son guide local. Adolfito est un autre personnage que j'ai rencontré dans cette place. À chaque fois que je le vois, il sort de la taverne de Raimundo et se trouvait là où commence la rue Melitón Cortiñas, la ruelle qui monte à droite de cet édifice moderniste où se trouve la boulangerie. Vous la voyez? Nous allons nous y rendre et accompagner ainsi Adolfito dans sa virée nocturne. En fait, il déambulait dans ses rues en chantant et en jouant du violon. Il aimait fredonner des chansons d'amour aux femmes et jeunes filles qui sortaient sur les balcons ou la fenêtre et faire des compliments aux passantes. C'était un homme élancé et distingué, aux cheveux châtain clair, qui portait une moustache et une barbe en pointe. On dit qu'il avait connu les étudiants de la Casa da Toya à Saint-Jacques-de-Compostelle, où il avait perdu un peu la tête à cause d'un amour contrarié qui l'a poussé à prendre la route, tel le dernier des troubadours. Il est vêtu d'une redingote et coiffé d'un chapeau melon et porte une petite fleur sauvage à sa boutonnière. Il n'accepte les dons que si on les lui donne avec discrétion. C'est donc un personnage romantique après la lettre.
De mi rasco saludó y se fue. Y al decir la cortesana, caballero que yo espero a mi
nada. Nous invitons à présent à monter les escaliers qui conduisent à la Rua Rosalía de Castro. Nous allons l'emprunter à droite pour aboutir à la Porta da Vida. Maintenant, elles sont vides, mais il y a quelques années, ces rues gorgeaient de vie et d'activité. Dans les années 70, il y avait là la Cubanita, une académie d'études où on dispensait des cours particuliers. Et non loin de là se trouvait l'atelier des Pistolas, un menuisier au talent exceptionnel. À quelques pas de là, on pouvait acheter les premières glaces vendues à Viveiro. Et à l'angle, je me souviens d'une petite boutique où on fabriquait et vendait de l'eau de Javel. Au bout de la rue se trouve la Porta da Vida. Nous allons nous y rendre. Ce qui me manque le plus, ce sont tous ces cafés-tavernes qui ont disparu. Dans les tascas de Viveiro, comme dans les tavernes de tant d'autres villes et bourgades, flottait l'odeur de désinfectant et le sol était couvert de sueur de bois pour faciliter le nettoyage. Je me souviens du Timiraos qui servait de très bonnes tapas de pousse-pied et des petites crevettes, ou du Paco qui proposait des palourdes. En ce temps-là, ces fruits de mer n'étaient pas prisés. L'une des plus connues et des plus fréquentées était la Taberna de Rosendo. Elle se trouvait juste ici, dans la Porta da Vida. C'était le point de rencontre par excellence. Les dettes étaient notées sur une ardoise et la clientèle frappait le zinc avec son verre avant de boire la bière d'une gorgée. Et puisque nous sommes ici, faisons une pause devant la porte de la cité. C'était autrefois l'entrée principale de Viveiro, par le dénommé Chemin Royal. Cette porte est la plus ancienne de la ville et elle conserve une inscription taillée dans la pierre qui est le témoignage écrit des plus anciens. Il est inscrit, 1217, au temps d'Alphonse IX de Léon. « Ces pierres contemplent le va-et-vient des passants depuis 800 ans. Nous n'allons pas franchir la porte, mais de l'autre côté se trouvait le champ de foire, occupé aujourd'hui par des tribunaux et d'autres immeubles. Sans oublier la fontaine de l'échafaud du XVIIIe siècle, ainsi nommée, car à cet endroit étaient exécutés les condamnés à mort. Maintenant, placez-vous dos à la porte et continuez à marcher sur la rue escarpée à droite. C'est l'Avenida de Lourdes. Dans l'une de ses premières maisons à droite est née la peintre Maruja Mayo. Le seul lien qui l'unit à la ville de Viveiro est le hasard d'être né ici. Toutefois, je l'ai rencontrée parfois dans cette partie de la ville. Elle me raconte toujours des histoires sur son exil en Amérique du Sud et sur son amitié avec Dalí ou encore Federico.
Bonjour, Federico, Dalí, moi et Margarita Manso et notre étudiant avons eu l'idée d'enlever nos chapeaux et en franchissant la Puerta del Sol. On nous a jeté des pierres et on nous a insultés. C'était comme si nous avions fait une découverte digne de Copernic ou Galilée.
Mais ce qu'elle préfère, c'est être seule. C'est pour cela qu'elle est revenue à Viveiro.
La solitude est mon principal capital, car elle me donne tout. Et je crois que l'homme se mesure par la solitude qu'il supporte. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas d'être seuls. La solitude est, pour certains, synonyme de vide et de peur.
En passant par ici, j'ai revu une nuit Isabel das Cabras, une femme à l'aspect négligé, qui était toujours entourée de chats et de gamins. Elle répétait sans cesse la même chose, comme un présage incompréhensible. « Et il n'a pas voulu de toi. » L'édifice que vous verrez à droite est le couvent des conceptionnistes. On y entre par cette cour grillée située à droite, où en 1925 a été construite une reproduction grandeur nature de la grotte du sanctuaire de Lourdes. À l'intérieur de l'église conventuelle est enterrée la fondatrice, Maria Alas Pumarinho. Le couvent a été bâti au XVIIe siècle et sa facture renaissance forme un curieux contraste avec le chevet roman de l'église Santa Maria do Campo située en face du couvent. La voyez-vous? C'est la plus ancienne de Viveiro et la plus complète en pure des églises urbaines romanes de Galice. Elle fut construite dans la deuxième moitié du XIIe siècle. C'est la deuxième halte obligatoire dans mes promenades. Tout d'abord, parce que j'aime regarder les figures taillées dans les modillons du chevet. Elles font référence à la luxure et à d'autres péchés capitaux. Et également à cause des marques que j'ai découvertes au hasard de mes flâneries sur les murs de la sacristie. Selon moi, il s'agit de l'ébauche du plan du temple. Mais ce ne sont peut-être que des élucubrations. Continuez jusqu'à l'angle où s'achève le mur du couvent. Arrêtez-vous là où commence une ruelle escarpée à droite. Comme vous le verrez sur la plaque apposée au mur, à présent elle porte le nom de rue Maria Alas Pumarinho. Mais les gens du coin l'appellent ruelle des religieuses. Pas la peine de vous y engouffrer. Nous allons simplement faire un halt et observer depuis cet endroit. C'est l'une des rares rues de Viveiro qui conserve les pavés d'origine. Au fond, on peut voir la Porta do Valado, la troisième des entrées qui est parvenue jusqu'à nous, sur les six qui comptaient la muraille au Moyen Âge. Comme vous pouvez le voir, la Calecha das Manchas sépare le potager conventuel du mur de l'hôtel particulier de la famille Sotelo Vazedor, qui se trouve à gauche. Dans son verger, on récoltait des prunes japonaises sans égale dans toute la vallée du Landro. Je me souviens encore qu'au pas de la porte d'entrée en pierre de cette maison, les métayers qui continuent à louer les terres qu'ils labouraient depuis des générations venez payer l'impôt et déposer sur le sol les sacs de grains, les mottes de beurre, les pots de miel, le vin, les haricots secs, les poules, les agneaux, le maïs, le seigle et les douzaines d'œufs. Devant cette maison, j'ai également assisté au Mayos, fête populaire célébrée au début du mois de mai pour commémorer l'apparition des fleurs et des premiers fruits. À Viveiro, ils sont aujourd'hui encore représentés en la personne d'un jeune homme que l'on couvre de branches, de feuilles et de fleurs, alors que les autres membres du groupe chantent une copla et font la quête.
Ahí vengo Mayo por la rúa do sol. Ahí vengo Mayo de rouba lo valle do.
Le Mayo s'allongeait sur le sol jusqu'à ce qu'on lui fît une offrande. C'était généralement des châtaignes sèches. Et la chanson finissait toujours de la même manière pour continuer sa route.
Erguete Mayo que tanto durmiches, paso inverno e tu no noviches.
Filgueira Valverde m'a dit un jour que la mélodie du Mayo de Viveiro lui rappelait le dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven. Maintenant, nous pouvons continuer notre visite en empruntant la Rua dos Irmãos Villarponte. C'est la rue suivante, à votre gauche. Elle passe devant la façade du Pazo Valledor. Cette rue s'est également appelée Rua do Sol, mais les habitants s'y réfèrent comme à la Rua da Riva. Maintenant, elle rend hommage à deux frères nés à Viveiro à la fin du 19e siècle, Ramon et Anton, grands défenseurs de l'utilisation de la langue galicienne à une époque où on ne la parlait que dans l'intimité du cercle familial. Je viens souvent par ici, mais je n'ai jamais eu la chance de les rencontrer. Par contre, au cours de mes déambulations, je vois régulièrement une autre personnalité locale importante, un vrai entrepreneur, José Barro. Il commença son activité entrepreneuriale à Viveiro dans les années 1890 en achetant l'ancienne fabrique de toiles, voilures et bâches construite au milieu du 19e siècle du côté de Chavín, à l'intérieur de la municipalité en amont du Landro. José Barro y installa une scierie mécanique, un moulin à farine et la centrale électrique qui allait alimenter Viveiro. Vinrent ensuite les mines de Silva Rosa. Dans les années 1900, José Barro ferma la scierie, le moulin et la fabrique de toiles et axa son activité sur la production d'électricité, la fonderie et la création d'un atelier mécanique. Depuis 1908, Barro importait des châssis et des pièces de rechange fabriquées par la marque française de Dion Bouton. Il finira par construire des autobus et contrôler les principales centrales hydroélectriques du coin. Au bout de cette rue se dressait la Porta das Angustias. Elle fut démolie en 1860 à la demande d'un habitant qui en avait dénoncé le piteux état et le risque d'effondrement. Mais nous allons à présent descendre une rue qui conduit à gauche. C'est la Rua Luis XIII. Cherchez la plaque si vous ne la trouvez pas. Vous l'avez localisée? Un peu plus loin, elle fait place à la Rua Díaz Freixo. Elle était connue traditionnellement sous le nom de Rua da Pescaderia. Vous savez déjà qu'ici les noms varient beaucoup. Les premières maisons que vous pouvez voir à votre gauche étaient à l'origine des maisons des pêcheurs. Observez-les bien, la longueur des façades est liée à la longueur des rames. En montant et descendant cette rue, j'ai souvent rencontré Nemesio Barreiro, un musicien qui en 1917 a eu l'idée de construire un théâtre à Viveiro, qui fut également une salle de cinéma. Il était préoccupé car l'église conventuelle néogothique qui était en ruine et non loin de son théâtre venait de s'effondrer. Une raison supplémentaire, s'il en fallait une, pour que le théâtre Pastor Díaz bâti par Nemesio soit un bien à préserver. L'entrée principale se trouve Rua Constanza de Castro, mais la façade postérieure du théâtre, de style néoclassique, donne sur cette rue où nous nous trouvons. Vous la voyez? Nous allons nous y arrêter un moment, pendant que nous écoutons ce que m'a raconté Nemesio la dernière fois que nous nous sommes croisés.
J'ai joué de la contrebasse et j'avais d'ailleurs joué dans la Société Philharmonique. J'aimais cet univers. En plus, Viveiro avait une tradition théâtrale très ancrée, parce que les assemblées des bienfaisances avaient autorisé depuis 1850 les premiers théâtres.
Le théâtre Pastor Veaf porte encore le nom de théâtre de la bienfaisance.
Par ailleurs, c'était le centre de ma vie et de mon activité professionnelle. En plus du théâtre, dans l'édifice j'avais ma maison et une chocolaterie. Car dans le meuble à Sorson, il y avait déjà une fabrique de chocolat.
Il y en avait beaucoup à Viveiro. Le chocolat était une industrie liée au transport maritime, car le cacao arrivait par bateau.
J'ai acheté un terrain que l'on appelait Formigo, et le projet a été conçu par Mario Paez, qui était à l'époque l'architecte de la députation provinciale de Lugo.
Longtemps après la mort du maître d'œuvre, le théâtre fut fermé pendant plusieurs années. La mairie en a fait l'acquisition, l'a rénové et a rouvert ses portes en septembre 2001. Nous allons maintenant continuer à marcher, en laissant derrière nous le théâtre. Ouvrez bien les yeux. Vous devez localiser une ruelle qui va vers la droite. C'est la Calle de los Muros. L'avez-vous trouvé? Eh bien, en route, empruntez-la. Elle faisait partie du chemin de ronde de l'ancienne muraille qui donnait accès à la cité médiévale. C'est la raison pour laquelle elle est si étroite. À certains points, elle ne dépasse pas le mètre de largeur. J'ai commencé à venir me promener ici une nuit pendant le carnaval, après ce qu'on appelle l'enterrement de la sardine, qui est une tradition très ancrée à Viveiro. Je venais seul, comme toujours, et il m'a semblé reconnaître Emilio Cachete, au Raveno. Je l'ai appelé par son nom. Il s'est retourné, c'était bien lui. Cette personnalité était très populaire dans les années 30. Il disait qu'il ne savait ni lire ni écrire, mais il faisait des chansons spécialement pour le carnaval, pleines de critiques comme celle qu'il a chantée cette nuit-là en se promenant sur cette ruelle en direction de la Pescaderia. Elle portait sur les querelles opposant la garde municipale et les poissonnières qui voulaient continuer à vendre leurs poissons dans la rue et non pas dans le marché couvert qui venait d'ouvrir ses portes.
Plaza de abastos, que vas faire? Voy poner puestos para vender. O primero puesto ha de ser para Antonia da Paraña, que tengo un barco en la Coruña cargado de tela de araña.
À l'époque, on ne vendait pas le poisson dans la place et la viande non plus. On en vendait à l'autre bout de la ville. La viande fraîche était un article de luxe et les gens démunis n'en mangeaient que très rarement. Ravenno m'a raconté que pour les chogueirons, qui étaient les hommes de la campagne embauchés pour ramer de janvier à juin, le carnaval était l'unique occasion de manger un peu de viande, même s'il ne s'agissait que de chorizo. Cette ruelle débouche sur la rua Margarita Pardo de Cela. Tournez à droite et vous tomberez sur la rua Cervantes. Vous verrez en face, un peu à gauche, l'édifice du marché couvert dont parlait Ravenno. Lorsque vous le pourrez, traversez pour vous y rendre. Nous allons continuer sur cette rue qui s'enfonce à côté du marché couvert et qui nous conduira jusqu'à la Fonte d'Area, qui est notre destination. Nous sommes dans le quartier d'Arriveira, où habitaient les familles des pêcheurs avant qu'elles n'aillent vivre dans un quartier aux maisons identiques et construites un peu plus haut, en dehors du centre-ville, un quartier connu sous le nom de Pénjamo.
Pues chula, ya se divisa mi pueblo, ¿eh?
Ya vamos llegando a Pénjamo. Ya brillan allá sus cúpulas.
A Ribeira, la guaya de conversación de poissonnières était un spectacle en soi. On ne pouvait s'empêcher d'admirer leur verve populaire et railleux. Ma mère s'amusait de leur franc-parler. et disait toujours qu'elle aurait aimé passer des heures à les regarder et à les écouter sans être vue.
Je vais encore t'appeler comme personne ne t'appelait dans ta vie.
Et
comment tu vas m'appeler, comme
mère?
Je vais peut-être te traiter de femme honnête.
Ce quartier s'achève à Fonte d'Area, qui est un peu à droite. C'est là que je veux finir cette promenade avec vous. Elle est située au pied du mur du couvent San Francisco et doit son nom au fait que, avant les travaux de Ramblay pour construire la jetée et la route, le bord de la mer arrivait jusqu'ici et la fontaine était dans le sable de la plage. Lorsque j'étais gamin, je vivais à côté d'ici, dans la maison du maître, dans le couvent de San Francisco. Une nuit, ma promenade m'a emmené jusqu'ici et pour la première fois, mon regard s'est arrêté sur une plaque située sur la fontaine, à droite. La voyez-vous? Approchez-vous si le cœur vous en dit. Comme je ne suis jamais pressé, je me suis mis à lire avec calme ce qui était inscrit. Au fil de la lecture, les mots me semblaient de plus en plus familiers, comme s'ils m'appartenaient. La fontaine avait trois becs simples en fer foncé. Une eau joyeuse, nouvelle, dans les vasques creuses dans le sol. Les becs étaient dans la partie inférieure d'un mur en pierre lisse, sans autre relief qu'une petite corniche allongée qui se rétrécissait au centre. De part et d'autre des becs, il y avait deux bancs en pierre pour s'asseoir ou poser des seaux. Au sol, il y avait des grandes pierres et l'ensemble formait une petite place obscure, calme, et à l'ombre du haut mur. Ces mots étaient les miens. Je me souvenais d'avoir écrit chacun d'eux. J'ai cherché avec le regard la fin du texte et j'y ai trouvé mon nom. En revanche, je ne m'attendais pas à voir la date de mon décès. J'ai découvert ainsi que j'étais l'un de ces spectres avec lesquels j'avais pour l'habitude de parler chaque nuit pendant mes promenades dans la ville. C'est la raison pour laquelle je pouvais les voir et les écouter. J'étais l'un d'eux. Mais tant qu'il y aura des gens comme vous qui se souviennent de nous, nous continuerons à apparaître dans les rues de Viveiro pour vous raconter quelques histoires qui prolongent la mémoire de notre ville, au-delà de ses murailles.
Notre visite s'achève. Merci de nous avoir accompagnés. N'oubliez pas de déposer le lecteur MP3 à l'office de tourisme.
Le personnage de cet audioguide a été interprété par ordre d'intervention par Aurélie Garrire, Olivier Cano-Carteret, Chris Iglesias et Emmanuel Cortés. L'édition et la post-production du son ont été à la charge de Jacobe Martinez Antelo. Et la documentation et les scénarios sont signés Jesús Ron. Cette œuvre n'aurait pas pu voir le jour sans la participation de Carlos Nuevo, Anton et Luce.